Bonjour Jacques Moifaux.
Bonjour Guillaume Lauder.
Le monde entier a été choqué il y a quelques mois en découvrant les images des migrants subsahariens vendus comme esclaves en Libye. Vous avez été particulièrement touché par ces images parce que c'est l'histoire de votre petit frère Félix.
Effectivement, Félix, j'ai reçu des photos de Félix assis parmi les esclaves en Libye il y a quelques mois, presque un an. Il faut savoir que j'avais connaissance déjà, il y avait plus d'un an que Félix était parti du Cameroun, de mon pays d'origine, et je n'avais pas de nouvelles jusqu'à ce que cette photo arrive sur ma table, mais là j'avais plongé dans un déni, j'avais d'autres soucis, et ceux-là sont arrivés, j'ai plongé dans un déni, mais lorsque je vois des images de CNN, mais quelque chose me dit que je dois agir.
Oui. Qu'est-ce que vous savez du parcours de votre petit frère? Est-ce que vous avez pu le reconstituer un petit peu?
La famille m'a dit qu'il est parti du Cameroun, il est passé par le Nigeria et le Niger avant d'arriver en Libye, où il a été fait esclave donc, et on a demandé une rançon qui a été versée par la famille.
Donc, et quelles sont les dernières nouvelles que vous avez lues? Vous avez perdu sa trace?
Tout à fait. Voici un an. Nous sommes en août, donc ça fait un an que j'ai pas de nouvelles. J'ai perdu toute trace de lui. Lors de mon dernier passage en avril chez vos confrères de France 24, quelqu'un qui avait été dans la même cellule que lui en Libye a contacté France Info pour donner des informations, mais qui étaient antérieures aux miennes. Donc, je n'ai plus de nouvelles depuis juillet 2017.
Donc pas de nouvelles depuis juillet. J'imagine que c'est forcément très angoissant, très, très inquiétant. Vous êtes journaliste français d'origine camerounaise. Vous avez vous-même été un migrant. Ce n'était pas le même parcours à l'époque, mais c'était déjà un parcours compliqué, Jacques Moifaux.
C'était déjà un bateau pour rejoindre le Gabon, et quelques années après, 2 ans, 9 mois après, un avion pour rejoindre la Suisse, où je suis refoulé en France. S'ensuit l'incarcération, je vais l'appeler comme ça, en zone d'attente de Roissy, où je vais constater des sévices corporels, des viols. Et j'ai dénoncé en appelant à l'ANAFE, qui est venu le mercredi 21 mars 2001, en zone d'attente, constater, preuve à l'appui, ce que je dénonçais étant moi-même enfermé.
Alors, est-ce que justement ça, vous en aviez parlé avec votre famille, avec votre petit frère en particulier, avant que tout ça ne se reproduise?
En effet, à chaque fois lorsque je suis retourné au Cameroun, j'en ai parlé avec la famille, les cousins, les frères, les tantes. En 2007, j'ai souvenir que j'y étais avec ma feu épouse, qui était donc française blanche de peau, née à Foix. Nous y étions. Nous avons essayé de sensibiliser la famille pour leur faire comprendre que l'Europe n'est pas l'Eldorado, et nous nous rendions compte qu'on nous riait au nez. Donc j'ai essayé de déconstruire cette conviction qui fait que en Afrique, on pense que la France, l'Europe, c'est l'Eldorado, mais malheureusement, je n'y suis pas parvenu.
C'est difficile d'en parler avec les gens qui sont restés au pays et qui pensent à migrer vers l'Europe, vers le Nord?
C'est extrêmement difficile. Il faut comprendre aussi que les conditions de vie sur place ne favorisent pas l'émancipation de la jeunesse. Pourquoi je suis moi-même parti? Parce que j'avais compris que je n'avais aucun avenir au Cameroun. Voilà, c'est difficile à dire. C'est un pays qui est beaucoup plus riche que la France, mais c'est le pays qui est riche, la population ne l'est pas.
C'est difficile donc d'en parler avec les gens. Est-ce que les candidats à la migration sont en mesure d'entendre que c'est un parcours très difficile et que le rêve, parce que c'est un rêve, c'est ce que vous nous décrivez, oui, peut être le plus souvent un véritable cauchemar? Ils ne peuvent pas l'entendre, ça?
Comment voulez-vous que des gens à qui on a enseigné que l'histoire de l'Occident, de France, à qui on montre que la Tour Eiffel, comprennent que Barbès et Saint-Denis existent? Comment voulez-vous qu'ils le comprennent? Il faut comprendre que dans cette affaire, tout le monde est coupable, commençant par les hommes politiques, pas qu'africains, mais d'abord français.
Est-ce que vous, quand vous essayez de déconstruire cette image d'Épinal de l'immigration en Europe, vous dites qu'on vous rit au nez, vous n'arrivez pas à le faire comprendre?
Je n'y parviens pas. Si j'étais parvenu, mon petit frère ne serait sans doute pas parti du Cameroun. Pourtant, il avait un métier en main. J'ai tout fait pour qu'il fasse l'une des meilleures formations dans le meilleur garage de Yaoundé, la capitale du Cameroun, en 2008, donc il y a 10 ans. Alors, il a un vrai métier en main, il sait dépanner des grosses cylindres, donc quelqu'un peut en vivre, où que ce soit, mais il a quand même pris la route.
Alors, c'est vous avez une image de quelqu'un qui a réussi, et ça, c'est difficile à assumer pour...
S'ils savaient que ce qu'ils perçoivent comme réussite ne l'est pas. Vous avez vu mon site internet, je peux en parler peut-être sur votre antenne si vous permettez, jmtv+.com. Pourquoi j'ai créé ce site internet? C'est parce que mes CV, envoyé à tous les médias français,
ne reçoivent aucune réponse.
Pourtant, tous les grands médias français ont diffusé mes images à un certain moment, des TF1 en passant par Canal et tout le reste. Mais regardez combien sommes-nous originaires d'Afrique représentés sur ces médias-là. Pour nous trouver, il faut aller dans le football. Et encore, ceux qui dirigent après sont monocolores. Ils ne peuvent pas comprendre que c'est difficile pour nous ici. Pourtant, nous ne cessons, moi particulièrement, je ne cesse de leur dire, c'est pas l'Eldorado. C'est difficile au Cameroun, certes, mais c'est peut-être plus facile là-bas qu'ici.
C'est quoi votre message pour des candidats au départ, des jeunes qui nous écoutent là en ce moment et qui penseraient à prendre la route de la migration?
Mon message aura deux volets. Le premier, que ces jeunes-là croient en leur pays. Ils restent malgré la situation difficile. Mais mon premier message s'adresse aux hommes politiques, d'abord occidentaux, car c'est l'Europe qui finance ce non-État pour contenir ces migrants-là. Alors, c'est l'Europe aussi qui est responsable du chaos en Libye. L'Europe a les moyens de stopper ce chaos-là, que l'Europe agisse et que l'Europe arrête de soutenir des dictatures qui restent longtemps au pouvoir et qui affaiblissent le peuple.
C'est le message au gouvernement européen. Est-ce que vous en avez particulièrement aussi un pour les gouvernants africains? Parce qu'eux aussi ont leur part de responsabilité.
Ils ont leur part. Je leur impute 30% de responsabilité. Les 70% appartiennent au système. Car c'est ce système qui les adoube, qui les met au pouvoir et qui les maintient là 35 ans, juste pour faire des affaires. À un certain moment, il va falloir que l'humain reprenne un peu le dessus sur le capital. Vous comprenez? Et pour cela, qui est-ce qui tient le capital? Qui est-ce qui tient ces hommes politiques? Ce sont certaines personnes bien penchées ici. Je n'ai rien contre qui que ce soit. Je suis français, je le revendique. Je demande à mon pays, à la France, de penser à mon autre pays d'origine, en pensant que dans ce pays, il y a des humains qui ont faim, qui ont soif et qui possèdent des richesses. C'est tout ce que je demande.
Les pays africains et européens, et en particulier la France, avaient tenté d'intervenir quand on avait vu ces images au CNN au moment du sommet Afrique-France. Qu'est-ce qui en est ressorti, selon vous?
Vous parlez de ce genre de sommet où les uns donnent des ordres, les autres doivent exécuter? Pour moi, les sommets France-Afrique ne servent à rien. J'ai assisté au sommet de Lisbonne les 8, 9 et 10 décembre 2007. J'ai bien pu constater en tant que journaliste ce qui s'y passe. Il n'y a rien. On les réunit dans une chambre, on leur impose ce qu'ils doivent appliquer chez eux. Je sais de quoi je parle, car Laurent Gbagbo m'a rendu compte de cette réunion des chefs d'État africains avec Nicolas Sarkozy dans une pièce. D'ailleurs, ce jour-là, Abdoulaye Ouad claque la porte au nez de Nicolas Sarkozy et suit Laurent Gbagbo. Bref. Il ne s'y passe rien. On devrait arrêter d'engouffrer l'argent du contribuable dans ce genre de choses.
Les évacuations par avion, c'est une goutte d'eau
C'est une vraie goutte d'eau, car on va évacuer ceux qui sont à Tripoli, mais le gros de l'esclavage se passe à l'intérieur du pays. Qui est-ce qui y va? Je pense qu'aujourd'hui, seules les puissances occidentales peuvent mettre fin au chaos libyen en envoyant... Est-ce que l'OTAN ne peut pas envoyer son armée ratisser l'intérieur du pays? L'OTAN n'en a pas les moyens. Cet argent qu'on verse... Un non-État pour contenir les migrants, on pourrait s'en servir autrement. Il faut qu'un peu d'humanisme nous regagne. C'est pas possible.
Merci, Jacky Moifo. Vous êtes journaliste et documentariste français d'origine camerounaise et auteur de « Ils ont vendu mon frère » ou « Le douloureux chemin de l'immigration ». C'est aux éditions Fauve. Et je signale et je rappelle à nos auditeurs qui sont sur la route de la migration ou qui penseraient à la prendre, qu'ils ont à leur disposition le site infomigrant@.net. C'est un site lancé par France Média Monde, la Deutsche Welle et l'agence italienne ANSA qui fournit des informations fiables et vérifiées pour les migrants en route ou qui envisagent de prendre la route.
Jacky Moifo, le journaliste avec Guillaume Nodin, c'était l'interview du matin.